Bienvenue à la French Connection, épisode spécial. Cette semaine, je suis avec Karine.
Allô?
Qui va nous parler d'un sujet très spécial, c'est-à-dire le projet Raven, qui est en le fond essentiellement des espions qu'on peut embaucher, qui ont été utilisés dans certains contextes, peut-être un peu moins éthiques, un peu plus dérangeants pour les gens.
Bon, donc c'est ça, le projet Raven, dans le fond, c'est l'histoire, en fait, d'une espionne qui est ressortie au jour récemment, selon Raven, le 30 janvier. Il y a une équipe tant d'espions qu'on fallait plusieurs anciens agents de renseignement américains qui ont été recrutés par les Émirats arabes unis. Pour surveiller d'autres gouvernements, les militants, les activistes, les droits, ceux qui sont les droits humains, pour tenir leur communication. Donc, c'est Laurie Strong qui se trouve à être une lesbienne qui a dévoilé toutes les informations qui ont ressorti de son équipe. Plusieurs aussi anciens agents ont utilisé l'information qui ont adhéré à ce qu'elle disait, comme quoi qu'il y avait beaucoup d'espionnage qui se faisait. Dans le fond, c'est une équipe qui était à la NSA qui a été, dans le fond, récupérée par les Émirats arabes unis pour ensuite développer cette équipe-là pour espionner d'autres pays. Donc, il y a eu plusieurs démentis comme quoi ça n'avait pas été vrai, puis que bon, les porte-parole de la NSA ont commencé par Apple aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'outils au niveau Apple qui ont été utilisés, des outils de différents gros manufacturiers. Donc, c'est ça. Aussi, l'ambassade des Émirats arabes unis a démenti la chose. Le porte-parole du Conseil des Nations, les médias aussi n'ont pas voulu parler, ont refusé de commenter. Donc, plusieurs journalistes aussi ont été espionnés pendant des années, depuis 2014 que le projet a débuté. Cette équipe-là, espionne aussi toutes les communications. C'est vraiment des sources qui ont été ciblées.
Ben c'est ça, essentiellement, ce que tu dis, c'est que c'est devenu des espions. Une fois qu'ils ont quitté la NSA, c'est devenu des espions pour l'embauche. Dans ce cas-ci, je crois qu'il y avait une firme privée qu'ils ont embauchée pour aider les Émirats arabes pour certains sortir du pétrin un peu. Je pense que les choses se sont corsées un peu davantage quand que cette compagnie privée-là a été réintégrée au service d'espionnage des Émirats arabes eux-mêmes. Donc, je pense que c'est là que les choses se sont corsées.
C'est la compagnie, une petite entreprise en cybersécurité, qui s'appelle CyberPoint. C'est ça, eux, vous avez été récupérés pour travailler avec les Émirats arabes unis. Il y avait différents façons de faire. Il y avait des tactiques différentes. Il y avait leur réunion. Il y avait des différentes façons de faire le briefing pour savoir l'espionnage avait été situé vers quoi. Il y avait des briefings courts, puis il y avait des briefings noirs qui appelaient. Entre autres, bon, on peut s'attendre que le briefing court était plutôt pour élaborer des mesures défensives. Dans les domaines là, de la sécurité. Puis, bon, tout ce qui était au niveau du développement des pare-feux, des systèmes de détection d'intrusion, des techniques défensives qui étaient jugées appropriées pour eux. Il y avait aussi des briefings qui étaient plutôt du côté noir, donc qui étaient plutôt du côté attaque, plutôt offensive, qui à ce moment-là était jamais connu non plus du grand public, qui était tout le temps caché. Les briefings noirs, ils appellent un peu comme des projets DREAD. C'est D-R-E-A-D, qui se trouve à être Development Research Exploitation Analysis Department. Donc, il y avait vraiment des référents en projet qui se concentraient sur de cibler, d'exploiter vraiment des activités liées à des renseignements privilégiés avec des cibles vraiment, vraiment pointées. Il y avait eu, dans le fond, ça avait été dénoncé aussi, je pense que les droits humains avaient eu information de ça. Donc, il y avait eu des questionnements de la part des droits humains. Il y avait plusieurs militants, les cibles du projet Riven étaient surtout les militants qui étaient au Yémen, en Iran, au Qatar, en Turquie, des gens aussi qui étaient critiqués par la monarchie, puis des anciens agents aussi de Riven. Puis plus on lit dans l'information, plus on se rend compte que vous allez, les États-Unis aussi étaient impressionnés par cette équipe-là. Donc là, il y a eu beaucoup de questionnements du côté aussi de Washington puis de tous les Américains, savoir si c'était légal de faire ça de leur côté, puis que ça vienne d'un autre pays, puis d'une équipe qui était de leur pays aussi. Donc c'est comme un non-sens pour eux autres. Hein. Donc c'est ça. Fait que c'était pas que seulement des étrangers qui étaient vraiment aussi des Américains.
Ouais, c'est là aussi le questionnement est très intéressant parce que autant les lois américaines sont pas claires sur l'usage de ce genre de choses-là. Je sais que ça l'a mené peut-être des enquêtes, mais c'est peut-être un peu plus difficile pour eux autres de bien positionner, mettons, la légalité de ce qu'ils font et où ils vont jusqu'avec ça.
Ouais. Il y a des gens qui étaient plus ciblés que d'autres, entre autres certains journalistes, un certain Donaghy, qui lui était infiltré dans le fond par un courriel, puis c'était comme un militant qui s'était passé, c'était un courriel qui était d'un militant qui s'était fait passer concernant les droits humains. Donc lui avait reçu un courriel, il avait cliqué dessus, puis il avait reçu un chargeur de sélection, faisant en sorte que tout était tracé, toutes ses communications, ses courriels, tout ce qu'il faisait dans le fond, son ordinateur avait été violé depuis vraiment longtemps. Donc, quand il s'en est rendu compte, je pense que cette personne-là a été surprise, mais il était pendant 5 ans suivi et tracé par cette équipe-là.
Ouais, mais c'est ça, la plupart des gens qui se retrouvent à tracer ou en tout cas suivis comme ça sont toujours très étonnés à quel point c'est très complet le degré de surveillance qui peut être effectué.
Oui, puis on se rend compte aussi à ces lectures que il y a plusieurs utilisateurs, pas que des journalistes là, qui sont sur surveillance, beaucoup de gens qui font partie de la monarchie, entre autres, je ne sais pas, au hasard, Ahmed Mansour, qui est un militant émirien au premier plan, puis lui aussi était ciblé, mais lui, parce que le traitement qu'il faisait à ses migrants et puis les formes de la détention qui est au niveau de ses opposants politiques était vraiment surveillé, donc lui aurait été un peu moins, cette surveillance a été peut-être plus chassée pour arrêter quelqu'un qui était malveillant dans le fond. Lui était reconnu coupable. De toute façon, ce mentor-là était reconnu coupable là, d'atteinte à l'unité du pays qui a été condamné à 10 ans de prison. Donc, c'est sûr, la surveillance de cette équipe-là qui a été condamnée. Le projet Riven a aussi utilisé un outil de spionnage qui était très puissant, qui s'appelait Carbon. Ça s'appelait peut-être qui toujours fonctionnel, là, qui a permis aux agents d'accéder au iPhone des utilisateurs du monde entier. Donc, cet outil-là, c'est obtenir les courriels, géolocalisation, les SMS, les photos, en téléchargeant juste la liste des numéros dans un système qui était comme préconfiguré. Là. Donc, en fait, les anciens employés ont pu. Toutes ces données-là, ils ont été. Carmon était très puissant, très puissant. Puis, juste d'un clic, on télécharge le logiciel malveillant. Puis, ils utilisent une vulnérabilité qui est non exploitée du logiciel SMS.
Ce point-là, justement, le fait que tout Carmon a été divulgué à ce moment-là et non confirmé par personne. C'est très épeurant parce que ça fait partie de toute la trousse d'outils que la NSA a perdu, toutes ces choses-là, tous ces outils ultra sophistiqués que finalement, que même si on pense que nos téléphones, on est en relative sécurité, quiconque a cette capacité-là offensive, finalement, est capable de venir complètement bousiller nos vies et survivre à peu près n'importe qui sur la Terre. Il n'y a absolument personne qui est vraiment protégé par ce genre de choses-là.
Non, puis en même temps, du coup, j'en avais pas parlé, mais l'équipe qui était originalement de la NSA, où est-ce que l'espionne, Laurie Trott, était, Edward Snowden était à quelques mois à peine, il était recommandé pour faire partie de cette équipe-là. Puis il a divulgué des informations un peu de temps après avoir rentré dans cette équipe-là. Donc, je sais pas à quel point il aurait été amené à travailler à ce projet-là, là, mais.
Ouais, ça, c'est un cas amusant parce qu'elle, elle avait voté pour son arrivée là-dedans. Puis finalement, dans le point de vue patriotique, il a fait dans les mains puis il est parti.
Ouais, c'est ça. Donc, bon, question Washington, eux autres, sont comme si de rien n'était. Ils sont pas au courant des opérations qui étaient offensives, puisque, bon. On dirait que tout le monde ne commande pas la situation, mais qu'on finit aussi qu'il n'y avait pas d'opération qui était juste pas partout. Suite à ça, il y a un accord quand même qui a été conclu entre le département d'État et CyberSpoint. Toutes les opérations de surveillance par cette équipe-là allaient être vraiment resté au marathon. Puis, suite à ça, ben, il y a plusieurs agents qui ont décidé que, sont rendus compte qu'il se passait des choses qui n'étaient pas à leur goût. Donc, en fin 2015, il y a plusieurs agents de Raven qui ont déclaré qu'ils faisaient comme mission de devenir un peu plus téméraire. Ils trouvaient qu'ils étaient un peu illégal par rapport aux Américains. Parce qu'il faisait qu'il dans le fond, la législation américaine interdit généralement à la NSA et à la CIA et aux agences de renseignement de surveiller les citoyens américains. Mais bon, c'est ce qui est cité ici par Luther, mais bon, c'est un gros bémol là-dessus. Hein. Mais en supposant qu'effectivement, il n'y aurait pas de surveillance, ben, les anciens employés, eux autres, ils ont commencé à lutter. Ils se sont rendus compte au fur et à mesure que dans le temps qui passait, que toutes les données qui étaient récupérées par cette équipe-là étaient supposées de supprimer toutes les données qui étaient utilisées pour les gens, les citoyens américains. Puis ils se sont rendus compte que finalement, le stock de données n'avait pas été supprimé, puis il y avait beaucoup de données qui étaient conservées. Puis que, au bout de la ligne, vu qu'ils ont tellement douté, ils ont créé un autre dans Antimatter. Donc, ces gens-là, ces agents-là avaient le choix de dire j'embarque dans Dark Matter, puis là, on fait d'autres campagnes d'espionnage ou je quitte et je retourne aux États-Unis. Donc, plusieurs ont décidé de rentrer chez eux à la maison. Puis, se sont rendus compte au bout de la ligne. Il y avait différentes classifications des cibles de surveillance. Puis, entre autres, il y avait une catégorie qui était dédiée aux Américains, que les Américains eux-mêmes ne savaient pas. Les agents américains ne savaient pas. C'était la catégorie, je pense, des blanches. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Mais, ouais, catégorie blanche. Ici, il y a vraiment une catégorie qui était dédiée aux Américains. Donc, à partir de là, la plupart des agents ont quitté et qui sont vivent dans un endroit secret aux États-Unis. Je pense qu'on a récupéré toutes leurs informations, le passeport, tout ça. Puis ils sont hors de portée par les agents des États et des États-Unis. Donc, c'est un peu l'histoire. Projet Raven, je suis convaincue qu'elle va continuer ou qu'il va y avoir autre chose qui va arriver. Donc,
Plus le temps avance, plus des histoires comme celle-là se matérialise ou en tout cas devienne publique. C'est sûr, comme tu dis, ce ne sera sûrement pas la dernière qu'on va entendre parler. Il va y en avoir probablement beaucoup d'autres, mais c'est toujours un peu épeurant à quel point cette capacité-là cyber est utilisée de façon assez arbitraire par les États. Dans ce cas-ci, il parlait des Émirats arabes, mais des Américains ou n'importe quel autre pays se sert dans la même, sans peut-être pas avec peu de scrupules, disons, ou en tout cas moins de scrupules qu'on pourrait l'avoir dans notre quotidien ou avec les règles qu'on considère démocratiques. C'est pour ça que quand tu mentionnais que les États-Unis disaient oui, non, mais personne ne va vouloir dire qu'il espionne son voisin, mais tout le monde espionne son voisin. Donc, on est dans un contexte où tout le monde va renier ça. Fait que là, on est dans un c'est très particulier, parce que moi, ça ne me rassure pas de voir ça. Puis je vois à quel point, finalement, on vit dans une maison de verre, puis tout le monde peut nous voir.
Oui, ça, c'est sans compter tous les autres pays qui sont très avancés aussi.
Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis un peu inquiet. Je pense que les Chinois doivent me surveiller parce que oui, les Russes probablement aussi parce que les mots, peut-être pas nécessairement le jeu que j'ai dit à leur égard, doivent mener justement au fait qu'ils doivent mettre sur une liste de surveillance.
Surtout en fait, c'est les constructeurs de tout ce qui vont
Donc, ça complique pas mal le sujet, en tout cas, du moins dans cet état-là. C'est sûr que c'est une histoire qui va être nécessairement à suivre parce qu'il va y avoir sûrement d'autres développements là-dessus. Et je pense que tu reviendras nous en parler davantage quand ceux-ci se matérialiseront.
Parfait. Ben,
à la prochaine.
À la prochaine.